Alors bienvenue pour ce cycle 2, ce cycle d'approfondissement où nous voyons aujourd'hui le baptême. Et nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur nous a permis aujourd'hui d'accueillir des nouveaux qui sont entrés dans l'Église par le catéchuménat et se préparent ainsi à recevoir le baptême. Le témoignage de ceux qui se convertissent au Christ nous rappelle que nous appartenons au Christ depuis notre baptême. L'enseignement que nous allons entendre aujourd'hui va parler du baptême, de ce qu'est le sacrement du baptême et donc du coup aussi ce qu'est un sacrement en général, et on pourrait dire aussi la vie spirituelle qui va avec le baptême. Voilà. Là, tout d'abord, parlons, entendons peut-être ces paroles de l'Écriture, de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 3. Or, il advint une fois que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix partit du ciel. « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » De l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 3, versets 13 et suivants. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors, il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Alors à travers ces deux paroles de l'Écriture, il nous est donné d'entendre l'événement du baptême de Jésus. Voilà. L'événement du baptême de Jésus qui va fonder tous les signes du baptême. Voilà. Qui va être l'élément fondateur pour le christianisme des signes du baptême, recevoir de l'eau, être baptisé. Voilà. Plus cette parole en Matthieu 28, qui est la finale de l'Évangile, où le Christ invite les apôtres à aller de par le monde entier, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de faire des nations, de leur apprendre à garder les commandements, en leur promettant qu'il sera avec eux jusqu'au bout. Voilà. Donc là, on a le baptême, le symbole, les gestes posés, l'eau versée, et puis là, le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la formule trinitaire à la fin de l'Évangile qui sont le fondement du baptême. Alors le baptême de Jésus, pour le Christ d'abord, contemplons le Christ. Pour le Christ lui-même, ce baptême a un sens. C'est qu'il inaugure sa mission de serviteur. C'est le début de son ministère public. Voilà. Il y a une manifestation du Seigneur publiquement à travers son baptême. C'est pour cela qu'une voix se fait entendre, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, la voix du Père. » C'est pour cela que le Saint-Esprit descend sous l'apparence du colombe. Donc on a ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de Dieu, de la Trinité. Le Père qui parle, l'Esprit qui descend et le Fils qui est dans l'eau, et qu'on va voir qui s'abaisse. En effet, cette manifestation de Dieu, de la Trinité, se produit au moment où le Fils inaugure son ministère public, mais aussi où le Fils s'abaisse. Parce que le baptême montre aussi le début de la mission de celui qu'on appelle le serviteur souffrant, qui se laisse compter parmi les pécheurs, comme Isaïe au chapitre 53 l'avait annoncé. Celui qui prendra les péchés sur nous, Celui dont Jean-Baptiste, dans saint Jean, au chapitre 1, verset 29, dira « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » en montrant le Christ, justement dans un contexte de baptême à nouveau. Donc c'est le serviteur qui s'abaisse. Pourquoi ? Bah, tout d'abord parce qu'il n'a pas besoin d'être baptisé le Christ. Parce qu'il a depuis toujours la plénitude du Saint-Esprit en lui. Il vit dans l'amour du Père. Il est un membre de la Trinité, une des personnes de la Trinité. Il n'a pas besoin de recevoir le baptême. Et puis depuis son incarnation, sa conception s'est faite dans l'Esprit Saint, dans le sein de Marie. Il n'a pas besoin de recevoir le baptême. S'il le reçoit, c'est à nouveau parce qu'il se laisse compter parmi les pécheurs. Il fait cette démarche d'abaissement, de solidarité avec nous, d'humiliation. Il descend dans le Jourdain. Et il descend dans l'eau. Alors, on m'a dit que le Jourdain était le lieu qui était le plus bas géographiquement. L'altitude la plus basse sur la terre, le lac le plus bas. Donc le Christ s'abaisse dans le lac le plus bas. Ça veut dire que symboliquement, le Seigneur, le Créateur, s'abaisse complètement. Et là, on voit ce qu'on appelle dans la théologie la kénose du Christ, l'abaissement du Seigneur. Le Seigneur s'abaisse et le fait de s'abaisser, il manifeste sa mission de celui qui va sans cesse s'abaisser, qui a commencé à s'abaisser dans son incarnation, qui s'abaisse en inaugurant son ministère public dans le baptême, qui s'abaissera en étant humble dans le service de la charité par la parole et les actes autour de lui, qui s'abaissera en servant, en lavant les pieds, qui s'abaissera jusqu'à la croix. Et c'est ainsi que la vie du Christ, c'est l'illustration parfaite de l'épître aux Philippiens, l'hymne aux Philippiens chapitre 2, le Christ ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à deux, mais s'est anéanti. Prenons l'apparence d'être semblable aux hommes, la condition de serviteur, etc. Donc le Christ s'anéantit et on a une manifestation de cela ce jour-là, le jour du baptême. C'est le Père qui parle au baptême. C'est le Père qui parle, qui dit à un moment précis, un moment historique précis, dans la vie du Christ, début du ministère public, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Mais c'est le Père éternel qui parle au Fils éternel. Et donc c'est le Père qui dit aussi « Tu es mon Fils. » Et il l'a toujours été, il lui redit encore de manière publique. « Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Dans cet « aujourd'hui », il y a aussi l'aujourd'hui de Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est tous les jours son jour. C'est l'actualisation en permanence que Dieu dit à son Fils. Le Père dit à son Fils « aujourd'hui, en permanence. » Et encore aujourd'hui, il l'engendre. Dans notre credo, nous disons que le Christ est engendré, non pas créé. Et donc le Père dit effectivement au Fils « Je t'ai engendré, il l'engendre sans cesse. » C'est le Père éternel qui dit au Fils éternel « Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Voilà, Dieu parle à Dieu. C'est une grande parole, c'est un mystère, voilà, le déploiement de la vie trinitaire. Et dans cet abaissement, le Fils reçoit tout, reçoit sa mission dans la prière. Voilà, on entend qu'il se trouvait en prière, nous dit Luc, et les cieux s'ouvrirent. Voilà, il reçoit ça dans la prière, et le lien qu'il lie à son Père, le Saint-Esprit, à nouveau se manifeste. Voilà, il y a véritablement le mystère trinitaire. Donc on voit que le Christ, dans cette manifestation qui prend sa mission publiquement, qui va l'amener jusqu'à la croix, il est déjà, ce que je disais, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est celui qui va porter, qui s'abaisse au plus bas, par solidarité avec les pécheurs, pour montrer le chemin de conversion, le chemin de purification. Il dira plus tard « Je suis le chemin ». Et il commence à prendre ce chemin et il accompagne ceux qui suivaient Jean-Baptiste en montrant qu'eux-mêmes essayaient d'être recevoir un baptême de conversion. Donc il prend le chemin de la conversion. Il n'a pas besoin de se convertir, mais il montre le chemin. Il participe, il est solidaire. Il va au plus profond dans l'eau. Alors l'eau dans la Bible, c'est le symbole de la mort. C'est le lieu de la mort. Quand le Christ plus tard ressuscité avant qu'il soit ressuscité, marche sur les eaux, c'est déjà une préfiguration de sa résurrection, dans le sens où le Christ marche sur la mort. Et là, le Christ là qui plonge dans l'eau et qui en ressort, c'est le Christ qui va mourir et ressusciter. Donc on voit le serviteur qui va donner sa vie par solidarité pour le chemin de conversion de tout Israël et de tous les hommes de tous les temps, qui montre le chemin, qui prend le chemin qu'Israël a pris jusqu'au dernier prophète qui est Jean-Baptiste, et qui l'accomplit, puisque Jean-Baptiste voit qu'en fait il a besoin d'être baptisé par le Seigneur. Et pourtant le Christ lui dira: laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Le Christ s'inscrit dans la pédagogie de la conversion des hommes, mais il va la dépasser. Et la justice pour Dieu, c'est d'être pardonné, d'être justifié, d'être à nouveau dans la grâce de Dieu, dans la pleine justice. C'est le Christ qui va accomplir cette justice. Les hommes n'en sont pas capables, mais il va passer par là, par solidarité. Alors Jean-Baptiste accepte. C'est un acte de confiance. Il accepte, il se laisse faire. Il accepte de baptiser son Sauveur. Voilà, c'est grand, hein. Alors qu'il sait que c'est lui qui est le Fils plein de grâce et de vérité, sur qui repose l'Esprit Saint, que lui ne baptise dans l'eau simplement, mais lui baptise dans l'Esprit Saint, comme il dira dans l'Épître, dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 1. Voilà. Donc le Christ, déjà, lui dit l'Église, le baptême anticipe la mort sanglante du Christ. Il vient déjà accomplir toute justice. C'est-à-dire qu'il se soumet tout entier à la volonté de son Père. Il consent par amour, nous dit l'Église, à ce baptême de mort pour la rémission de nos péchés. À cette acceptation, comme le dit l'Épître aux Hébreux en parlant du Christ, voici Père que je viens faire ta volonté. À cette acceptation répond la voix du Père qui met toute sa complaisance en son nom. Voilà. Dieu se manifeste, le Père se manifeste et le Fils a, par avance, offert toute sa vie, obéi à la volonté du Père. Et dans ce contexte-là, d'abaissement, d'humilité, de confiance, d'abandon à la volonté du Père, il y a la manifestation trinitaire et le chemin de conversion. Voilà. Et nous avons les cieux qui s'ouvrirent. Nous avons les cieux qui s'ouvrirent. Voilà, Matthieu 3, 16, à son baptême, les cieux s'ouvrirent. Nous nous rappelons que ces cieux ont été fermés par le péché d'Adam. Les cieux ont été fermés. Les cieux s'ouvrent à nouveau parce que le Christ, quelque part, le don qu'il fait de lui-même, les cieux s'ouvrent et Dieu parle. Voilà, Dieu parle de manière forte. Les eaux sont sanctifiées. L'Esprit Saint descend. Et ça nous rappelle l'Esprit Saint dans la Genèse qui planait sur les eaux. Ainsi, le baptême du Christ prépare la rédemption, le pardon des péchés, mais aussi la recréation. C'est une nouvelle création qui va se faire. Et le Christ mort et ressuscité va être le premier-né d'entre les morts, la nouvelle création, le nouvel Adam. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. C'est le prélude de la nouvelle création qui se joue là. Le Saint-Esprit qui descend sur les eaux. Voilà. Et les cieux qui s'ouvrent. La communication avec Dieu. Voilà. Alors, nous voyons donc que ce baptême du Christ est lié, je disais, au mystère pascal, le Seigneur qui va montrer le chemin et qui va aller jusqu'au bout dans l'abaissement, jusqu'à la croix. C'est dans la Pâque que le Christ a ouvert à tous les hommes les sources du baptême. Ce passage de la mort à la résurrection, plongé dans l'eau, symboliquement c'est très fort dans l'Écriture, nous avons Israël qui traverse l'eau pour échapper aux Égyptiens, et Israël l'appellera à la Pâque. Israël arrive en terre promise en passant le Jourdain. Le Christ va passer dans le Jourdain, préfigurant sa mort et sa résurrection, la Pâque. Ainsi, le baptême, celui qui sera baptisé, nous le reverrons, sera plongé dans cette Pâque. Voilà. Cette Pâque, ce mystère d'être de la mort du Christ, ce que le Christ va gagner, ce que le Christ va permettre comme communication avec Dieu, par ce chemin de l'obéissance jusqu'au bout de l'anéantissement, le don qui nous sera fait de tous ces fruits-là sera fait à la croix et la résurrection du Christ. En effet, à la croix, en Jean 19, nous pouvons contempler le Christ, Jean 19, 34, le Christ qui est crucifié, dont l'eau du côté et le sang jaillissent. Et à ce moment-là, est donné les grâces, et l'eau et le sang préfigurent, on dit, sont les types du sacrement de l'Eucharistie, le sang, et l'eau, le sacrement du baptême. Voyez ? Et nous retrouvons ces éléments-là un peu dans le Christ miséricordieux que nous aurons bientôt dans la chapelle salienne pour l'année de la miséricorde. Justement, l'eau et le sang, le rayon rouge et le rayon blanc. Il y a un peu une analogie là. Et donc ça, ces grâces-là, c'est les grâces du baptême. Et ces grâces du baptême nous sont données, elles ont été préparées par le Seigneur, et voilà, on voit que le baptême est lié à la croix. Le baptême est lié à la croix, parce que ce que le Seigneur a fait au jour du Jourdain, où la voix du Père s'est fait entendre et l'Esprit Saint a descendu, où Jean-Baptiste l'a baptisé, cela nous sera donné à la croix. Cela nous sera donné à la croix. Et ainsi, nous pourrons naître à nouveau. Nous pourrons naître à nouveau. Nous pourrons à nouveau rentrer dans le royaume de Dieu. Les cieux nous seront ouverts. Nous pourrons entendre la voix du Père nous dire « Tu es mon Fils bien-aimé aujourd'hui. Maintenant, je t'engendre comme mon Fils éternel. Je te continue de t'engendrer parce que tu es adopté en mon Fils par le baptême. Donc je t'engendre. » Voilà. Cela nous sera donné, cette porte ouverte, par le cœur de Dieu sur la croix et la résurrection. Voilà. Alors, saint Ambroise a cette belle parole, « Vois où tu es baptisé, d'où vient le baptême, sinon de la croix du Christ, de la mort du Christ. Là est tout le mystère. Il a souffert pour toi, c'est en lui que tu es racheté, c'est en lui que tu es sauvé, et à ton tour tu deviens sauveur. » Alors, participe au salut. Voilà pour le mystère du Christ, on voit un mystère de solidarité, de compassion, d'abaissement, de manifestation trinitaire, un mystère de sacrifice qui est lié à la croix, voilà, dont la fécondité sera donnée dans le mystère pascal. Et on voit, c'est ça le baptême du Christ. C'était pas pour lui, c'était pour nous. Voilà, c'était pour nous qu'il l'a fait. Parlons maintenant du sacrement du baptême que nous recevons. Et tout d'abord, avant de parler du sacrement du baptême, parlons peut-être de ce qu'est un sacrement. L'Église professe que les sacrements ont été institués par le Christ lui-même. Ça veut dire que les paroles, les gestes du Christ, durant sa vie, avaient une valeur salvifique. Et dans certaines paroles du Christ, dans certains gestes, il y a comme un concentré de grâce qui sont les sacrements. Dans certaines actions, le Christ a pardonné, dans la scène, dans certaines actions où il a incarné le baptême, où il a demandé cela, par exemple, dans certaines actions qu'il a demandé aux apôtres de faire avec les onctions d'huile, etc., les premiers prêtres, etc., la célébration des noces de Cana, nous avons là la substance des sacrements, dans les paroles et les gestes du Christ. Donc il est très important de dire que ce n'est pas l'Église qui a inventé les sacrements. Comme elle aurait traficoté la parole de Dieu, elle aurait inventé des sacrements. Mais en fait, Jésus n'a rien voulu de tout ça, c'est une invention humaine. Non, il faut nous rappeler que c'est Jésus qui a inventé les sacrements. Parce que c'est lui-même qui les a donnés, parce qu'il a donné son contact, sa parole, et que toucher Jésus, entendre Jésus, est guérissant. Donc c'est Jésus qui a institué cela. Et il a voulu que ça perdure, parce qu'il voulait être le sauveur de toutes les générations. Donc il voulait que son corps soit touché, que sa parole soit entendue. à travers des signes concrets, et pour cela, il a fallu perdurer ce qu'il ferait, ce qu'il avait fait. Et non pas simplement perdurer au sens d'une mémoire, mais quand le ministre le fait, c'est Jésus qui le fait en même temps. Le ministre ne dit pas « Ceci est le corps de Jésus, ceci est le pardon de Jésus, ceci est le baptême de Jésus. » Le ministre dit « Je te baptise, je te pardonne, je te pardonne. Ceci est mon corps livré pour vous. » C'est-à-dire qu'en fait, il y a Jésus qui agit, qu'on peut toucher, qu'on peut entendre. C'est du direct. Le sacrement, c'est l'actualisation des gestes et des signes sauveurs de Jésus. C'est le prolongement de son humanité. On touche son humanité, pas moins, pas plus, comme avant. Sous le voile sacramentel, mais c'est réel. Donc, c'est toujours Jésus qui baptise, c'est toujours Jésus qui pardonne, c'est toujours Jésus qui agit dans l'Eucharistie, c'est toujours Jésus qui marie, c'est toujours Jésus qui donne le sacrement des malades, etc. à travers les ministres. C'est très important. Aussi vrai que l'Église n'invente pas son credo, la foi était déjà pratiquée comme ça depuis les premiers chrétiens, tout le contenu de la foi, aussi vrai que l'Église n'invente pas l'Écriture, le témoignage des apôtres se sont transmis et en son temps on l'a écrit, mais guidé par l'Esprit-Saint, on n'a pas traficoté les textes. De la même manière, l'Église n'a pas inventé les sacrements. Ce qu'a fait l'Église, c'est qu'elle a désenveloppé le cadeau pour de mieux en mieux le comprendre. Elle a posé le canon de l'Écriture, c'est-à-dire qu'elle a compris l'agencement de l'Écriture qui lui était donnée et discerné ce qui était parole de Dieu, expérience du Christ ressuscité, cachée dans l'Ancien Testament mais présente et dévoilée dans le Nouveau. Ce qu'était la foi de l'Église, ce qu'elle avait reçu en la désenveloppant, en formalisant par des concepts dogmatiques qui n'enlèvent rien à la foi primitive qui est toute vécue, mais qui est mise en forme, balisée par le dogme, comme pour le mettre en forme, on le désenveloppe dans le temps. De la même manière, l'Église a désenveloppé les paroles et les gestes du Seigneur salvifique qui sont les sacrements en posant la liturgie sacramentelle. Mais en aucun cas l'Église a inventé les sacrements, il n'y aura pas un huitième sacrement ni un neuvième, ça c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Et de fait, avec les sept sacrements, il y a une forme de plénitude, comme les sept jours de la semaine. C'est un absolu. Voilà, donc ça c'est important. Et nous sommes, l'Église est aidée dans ce travail de désenveloppement par l'Esprit-Saint. On ne dira pas que c'est la révélation parce que le Seigneur a tout donné. Voilà, jusqu'au dernier apôtre, il a tout donné dans l'Écriture, dans la foi de l'Église, tout, dans les sacrements. Donc on a tout, les moyens de salut, là, avec Pierre. On a tous les moyens. Je rappelle que catholique veut dire universel, mais aussi intégral dans les moyens de salut. Être catholique, c'est avoir tous les moyens de salut, intégral. Donc là, on a tous les moyens de salut. Mais l'Église va les désenvelopper, les approfondir, les comprendre avec l'Esprit-Saint qui va non plus révéler cette foi, mais assister l'Église. Donc l'Église va développer les sacrements sous l'assistance du Saint-Esprit. La manière de les donner, non pas les fabriquer, c'est donné par Jésus. Déjà, une fois qu'il est incarné ici-bas, il agit sacramentellement. C'est le corps de Jésus qui touche, qui parle. Mais là, l'Église, qui est aidée par le Saint-Esprit, approfondit ce mystère, on dit qu'elle est, comme le Jésus disait en Jean 16, l'Esprit-Saint nous conduit dans la vérité tout entière. Nous comprenons de mieux en mieux la pertinence du sacrement, la qualité du rite, etc. Alors je vais m'arrêter là-dessus, parce que les rites ne sont pas un carcan où nous avons dicté les choses ainsi, et parce que nous les avons dictées ainsi, voilà, l'Église est très très méchante, l'Église a fait ça ainsi, c'est pas bien, mais on pourrait faire tout à fait autrement. D'ailleurs, il y a trop un peu de saupoudrage, de dentelle, de doré, de manière de faire, on pourrait enlever ça, on arriverait au pur et dur. C'est ça l'essentiel. Alors on a fait ça, puis on a tout enlevé en fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le rite, j'allais dire si on est rituel pour être rituel, excusez-moi, on s'en fiche. Mais derrière le rite, le rite est véhicule de la substance salvifique de Dieu, de la grâce de Dieu. Dans le rite est contenue toute la grâce de Dieu pour nous. Donc, toucher au rite, c'est altérer la possibilité que la grâce de Dieu nous touche. Parce que ce rite, c'est façonné par le Saint-Esprit qui nous aide à rentrer dans la vérité tout entière. C'est presque une œuvre divine. D'ailleurs, la liturgie, c'est d'abord une œuvre divine avant d'être une œuvre de l'homme. Et nous ne disons pas « on va donner un sacrement », mais nous disons que nous célébrons un sacrement, quel qu'il soit, parce que c'est une œuvre liturgique, une œuvre divine. Et que l'Église, aidée par le Saint-Esprit, trouve la meilleure forme pour donner la grâce. Et donc le rite, c'est la manifestation, la petite épiphanie, la petite théophanie, comme il y avait le jour du baptême, pour donner la grâce. Toucher à la théophanie au rite, c'est ne plus rendre la grâce visible, voire même la grâce opérante. Donc il ne faut pas toucher au rite. Voilà l'importance. Et puis profondément, ça c'est ce qu'il y a de plus profond, j'altère le rite, je peux altérer le phénomène, la grâce salvifique pour nous. Voilà. Je peux déstructurer complètement les choses. Et nous voyons que le rite n'est pas un mime. Il y a des éléments que nous avons gardés, des faits et gestes de Jésus. Il y a des éléments que nous n'avons pas gardés. L'Église a discerné avec le Saint-Esprit ce qui était véritablement fondamental pour chaque sacrement. Et elle l'a précisé dans son temps parce que le Saint-Esprit l'assiste. Ainsi, par exemple, je prends un détail, pour l'Eucharistie, le prêtre prend le pain, le rompit et le repas à ce moment-là. On n'est pas dans du mime, on ne fait pas un sketch. Sinon, il faudrait qu'on mange entre la consécration du pain et la consécration du vin. Parce que ça s'est passé comme ça. Alors, ce n'est pas ça, la messe. On voit qu'il y a une unité, l'Église, guidée par le Saint-Esprit, a mis les points focaux sur l'essentiel, là où était contenue la grâce. Là, en dehors du contexte culturel, nous est donné ce qui va rester intemporel. Mais qui est bien lié à l'incarnation, parce qu'il y a des paroles, des faits et gestes qu'on va garder, la quintessence. Donc on ne touche pas le rite, parce qu'il garde tout ça. Il le structure, il le magnifie, il nous le donne. C'est la grâce de Dieu. Ça, c'est important. Et donc, du coup, si nous vivons bien le sacrement, il y a un adage, selon la manière dont l'Église assistée par le Saint-Esprit nous le donne, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ce grand adage de l'Église, très ancien, « lex orandi, lex credendi », la loi de la prière, c'est la loi de la foi. La manière dont tu pries dit ce que tu crois. Le risque d'altérer le rite, c'est finalement d'altérer la foi. Parce que la foi, c'est pas tellement... Bien sûr, c'est un contenu de foi, mais la foi, c'est une expérience. Et l'expérience sacramentelle, c'est rentrer dans un contact avec Jésus. Et le rite façonne l'expérience, le prépare, le continue, l'intensifie, etc. Et donc, toucher au rite, c'est altérer la loi de la prière, la déformer à son gré, selon son improvisation. Et le risque, c'est de déformer la foi. Ainsi, par exemple, je fais du n'importe quoi avec la messe, au final... Je peux très bien ne plus croire à la présence de la puissance de la parole de Dieu que Jésus parle, à la présence réelle dans l'Eucharistie, etc., au Saint-Sacrifice, etc. L'altération détruit. Je touche à la substance du sacrement de confession et au final, j'ai plus besoin de me confesser. Dieu s'en occupe tout seul, etc. Et j'altère la foi. J'abîme la foi. Et de plus en plus. Donc nous voyons véritablement qu'aucun ministre n'a le droit d'altérer, et aucun laïc, personne n'a le droit d'altérer le rite qui est la forme dans laquelle est donnée la grâce. Parce qu'altérer cette forme-là, qui est assistée par l'Esprit Saint, le risque, c'est d'en altérer le contenu et son intelligence. Que la lumière ne nous est plus chaleureuse, purifiante, brûlante et même éclairante, on sera plus qu'il vrai. Voyez. Donc c'est un dépôt sacré qu'il faut garder, qu'il faut protéger. Ça, c'est pour les sacrements, c'est important. J'ajoute que les sacrements sont les sacrements de la foi. Je dis tout ça en préambule avant le sacrement du baptême, mais c'est très important. C'est les sacrements de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire que les sacrements sont les sacrements de la foi ? Les sacrements sont les sacrements de la foi parce que les sacrements donnent la foi. Les sacrements nourrissent notre foi. Nous avons la foi chrétienne parce que nous sommes baptisés. Et c'est dans la foi que je pose, que je reçois le sacrement. Le sacrement nourrit ma foi et j'y adhère par la foi. Mais d'abord, je commence par les sacrements nourrissent ma foi. Je ne juge personne en disant cela, mais je le dis quand même. Quand nous disons « je suis croyant, non pratiquant », nous disons beaucoup de choses, mais nous ne disons pas grand-chose. Parce qu'en réalité, c'est un non-sens. Parce que la foi se pratique, parce qu'on parle d'acte de foi, d'action. Donc, pratiquant, croyant, non pratiquant, c'est avoir la foi sans action. Donc, ce n'est pas poser un acte de foi, donc je ne sais pas ce que c'est vraiment comme foi. C'est la première chose. Mais plus profondément, la foi se nourrit par des actions qui ne deviennent pas de nous, mais qui viennent de Dieu. Dieu nous alimente dans la foi par les sacrements. Celui qui ne reçoit pas les sacrements se détériore dans la foi parce qu'il ne peut pas tenir dans la grâce seul. Je ne peux pas produire la grâce moi-même. Donc, quand nous ne pratiquons pas la foi au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire aller à la messe, recevoir les sacrements, la confession, etc., au bout d'un moment, la foi intérieure se détériore. Sauf conflit de persécution, là tout le monde dans sa cave va prier le chapelet, le Seigneur va donner des grâces extraordinaires, mais en général, ce n'est pas le cas. Et là, la foi se détériore. Et en se détériorant, on passe de la foi de l'Église à ma foi. Et ma foi, souvent, elle est bien étriquée sur plein de points. Elle devient moins intensive, moins missionnaire, beaucoup plus partielle, et à la fois, elle a plus besoin de se convertir. Donc on est croyant, nos pratiquants, en fait, on n'est plus croyant, nos pratiquants, on est diminué, faute de ressources. Donc le sacrement de la foi nourrisse la foi. Et Ratzinger disait, avant d'être Benoît XVI, aujourd'hui notre pape émérite, qu'il faudra vraiment analyser un jour, faire un point sur le fait que peut-être, dans la crise qu'il y a eu de la foi, de la perte de foi, il y a eu avant tout une perte de la pratique sacramentelle. Que la pratique sacramentelle, pour une part, a engendré la perte de foi. Logique, tu ne te nourris pas, mais au bout d'un moment, t'as plus rien, t'as plus de nourriture. Il y a un vrai enjeu là. Après, j'adhère au sacrement par la foi. Et quand nous disons ça, c'est vraiment par la foi. C'est pas en mode « ça me plaît pas », c'est de cette manière, selon ce profil, selon ma sensibilité. Non. Le ministre, qu'il soit d'un type ou d'un autre, qu'il soit pécheur ou saint, quand il donne le sacrement, ça passe. Parce que le sacrement n'est pas lié à la sainteté du ministre. Dieu donne, ça agit. Et pour ça, il nous faut le recevoir dans la foi pure. Pas dans la foi qui dit « là, ça a l'air d'être mieux ». Là, je vais aller par là. Ça, c'est trop humain. C'est trop humain. On raconte que Jean de la Croix, pour faire une ascèse à Thérèse d'Avila, au moment de lui donner l'Eucharistie, a coupé l'hostie en petits morceaux. Il lui a donné. Pour être dans la foi, vraiment. Pas dans le côté gustatif. C'est le même Dieu. Donc, il y a un vrai enjeu pour nous à cela. Il y a un vrai enjeu. Ça veut dire aussi que la sainteté du ministre n'est pas nécessaire pour recevoir un sacrement. La grâce, objectivement, est pleinement donnée, elle est pleinement sanctifiante, quelle que soit la sainteté du ministre. Et je ne sais plus cette parole, mais c'est Augustin, je crois, qui disait ça, mais je ne sais plus l'exemple, alors je vais le paraphraser. Quand c'est Pierre qui baptise, c'est Jésus qui baptise. Quand c'est Judas qui baptise, c'est Jésus qui baptise. C'est pas un pas vraiment Jésus, on n'est pas sûr où ça commence. C'est Jésus qui passe. Donc là aussi, il faut poser un acte de foi. C'est très important. Et je pense véritablement, entre autres dans la crise du sacerdoce, que nous, les premiers concernés, et tous les fidèles, nous avons à permettre à des prêtres de redécouvrir le sacerdoce en leur demandant les sacrements. Parce que ça va leur permettre de redécouvrir ceux qui sont porteurs. Au lieu de les juger en disant « Vous n'êtes pas terrible, je vais aller voir quelqu'un d'autre. » Ce n'est pas une attitude de croyant, une attitude simplement mondaine. Donc là, il y a une purification de la foi à faire. Et de croire que quand Dieu pose un geste, une parole, une action, ça agit sur moi au-delà du senti. Au-delà du senti, ça va agir. Parce que c'est Jésus qui me touche, qui me parle à ce moment-là. Si le sacrement n'est pas lié à la sainteté du ministre, parce qu'il est donné objectivement, la sainteté du ministre peut aider à la diffusion. voyez-vous si la lumière d'une ampoule est donnée, on va dire, dans un trou, dans une lampe, une ampoule qui est au fond d'une lampe, un trou, on va dire, bien opaque, bien noir, elle brillera par les petits trous à la rigueur du don, elle va faire passer des lumières, mais pas plus. Mais si le ministre devient transparent à la grâce, l'ampoule rentre dans le trou transparent, devient translucide, ça va briller beaucoup plus. La sainteté du ministre ne rajoute rien à Dieu, mais elle manifeste mieux la sainteté de Dieu. Ainsi, il est bon que le ministre se convertisse, qu'il lui-même vive des sacrements, de manière à refléter Dieu. Et nous savons que la sainteté du ministère, du ministre, va aider à manifester la sainteté de Dieu, et qu'ainsi, le ministre, effectivement, participe à donner la grâce. Il ne la donne pas, mais il la rend transparente. C'est évident que, quand Padre Pio célébrait la messe, on voyait quelque chose de la sainteté de Dieu. Ça n'était pas plus la messe qu'un autre prêtre. Mais Padre Pio était transparent. Vous voyez ? Donc il y a un grand jeu. Bon, j'ai dit ça pour les ministres, on va parler des laïcs. Quand on reçoit un sacrement, on le reçoit objectivement, point barre. Il faut poser un acte de foi au-delà des sentiments, etc., etc. D'accord ? Mais la manière dont je me prépare, par la prière, l'examen de conscience, le désir de conversion, voire même la confession, va permettre à la grâce d'être transparente ou pas à la grâce. Va me permettre d'être transparent ou pas à la grâce. Et ainsi, je peux, si je prends un exemple, avoir deux verres, un verre rempli d'eau et un verre rempli d'eau bien dense, voire presque du pétrole. Vous mettez dans les deux cas un cachet d'aspirine. Dans l'un, ça se diffuse. Et pourvu que l'eau soit le plus pure possible, ça va donner le goût. On imagine que c'est un cachet d'aspirine au jus d'orange, par exemple. Ça colore, ça donne le goût attendu. Dans un autre cas, il n'est pas sûr du tout que le cachet se diffuse et donne du goût. Et on ne verra rien. C'est-à-dire qu'en fait, la grâce peut être donnée objectivement, mais ne peut avoir peut-être très peu, voire aucun effet sur moi, parce que j'aurai ni le désir de me convertir, ni m'être préparé mon cœur, ni être propre pour recevoir Dieu. Et donc il y a une vraie question dans le cheminement de sainteté que demande le sacrement, au même titre que j'ai en baptiste préparé à recevoir le baptême du Seigneur, du Messie, à travers l'Esprit Saint, leur proposer un baptême de conversion. Il y a une étape de conversion pour recevoir le sacrement. Non pas que le sacrement est pour les parfaits, pour les purs, puisque le sacrement est un remède et que Jésus est venu pour les pécheurs, mais il implique un vrai chemin de conversion et non pas une forme passive. Ainsi, il faut se poser la question sans aucun jugement, quel est mon rapport entre toutes les eucharisties que je reçois et ma confession? Si je communie tous les jours et me confesse une fois par an, à moins d'être transparent à la grâce, il va falloir revoir les rapports. C'est pas un jugement que je dis. Mais on voit bien qu'il y a un déséquilibre dans l'organisation sacramentelle qui est à revoir. Donc il y a un vrai enjeu, là. Il y a un vrai enjeu d'unité, de cohérence pour se préparer à la grâce. Voilà, ça c'est pour les sacrements. Il y en a sept, je disais, parce que c'est une plénitude. Il y en a quatre, trois qui sont appelés sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, eucharistie, deux qui sont appelés sacrements de guérison, onction des malades, confession, et deux qui sont appelés sacrements de la mission, ordre et mariage.